Nous entrons dans le temps ordinaire de l'Église. Nous entrons dans ce temps ordinaire et nous venons d'entendre dans l'Évangile de Saint Jean l'appel des premiers disciples. C'était des hommes ordinaires. Tout au plus peut-on dire, comme nous l'entendrons dimanche prochain dans l'Évangile de Saint Marc, qu'ils étaient ensemble quand Jésus les a appelés. Ici, ils sont ensemble auprès de Jean-Baptiste, ensemble à écouter, à chercher. Chez Saint-Marc, ensemble à travailler. Et Saint-Luc, qui situe l'appel lors de la pêche miraculeuse, montre qu'ils sont également très prompts à s'entraider. Même Saint-Matthieu, qu'on aurait pu imaginer seul, isolé à part à cause de son métier, de sa profession, honni de collecteur d'impôts, lorsque Jésus l'appelle, il donne une grande réception dans sa maison. Et c'est peut-être pourquoi Caravage, dans ce tableau célèbre, l'appel de Saint Matthieu, le représente non pas seul, isolé, mais entouré. L'appel par le Seigneur n'est pas fonction de nos qualités. D'ailleurs, dans le groupe des douze, ensuite, ce ne sera pas Matthieu, malgré son sens de l'argent et son expérience de l'argent, qui sera trésorier, ce sera Judas. Des compétences et des qualités des disciples, nous ne savons pratiquement rien. Nous ne savons pratiquement rien parce que ça n'a aucune importance. Le grand avantage dans l'Église, c'est qu'on n'y est pas appelé par Dieu en raison de nos talents. Pas plus qu'on y exerce de responsabilités en fonction de nos compétences. Bien plus qu'on préférait tous, surtout dans l'Église, mais de toute façon en général, mais surtout dans l'Église, on préférait avoir affaire à des responsables compétents. Eh bien, ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas une raison pour tout laisser à volo, pour renoncer à se former, à travailler, à progresser, à vérifier aussi que les missions que nous déléguons sont correctement exercées. Mais Dieu ne nous appelle pas en raison de nos qualités, mais parce que Dieu est amour. Dieu est amour et Dieu le Père Tout-Puissant aime chacun de ses enfants. Dans une famille, il n'y a rien de plus triste que de voir parfois des préférences criantes de certains parents pour certains de leurs enfants. Plus beaux, plus doués, plus conformes à leur goût, à leurs idées. Et les injustices qui sont subies par l'autre, les autres, les mal-aimés. J'ai rencontré une femme qui, jusqu'à l'âge de 42 ans, a entendu chaque année, au jour de son anniversaire, sa maman lui dire « Je ne t'ai pas désiré ». Enfant, cette femme avait subi des abus que la décence interdit d'évoquer. Eh bien, je vais vous dire un miracle. À 50 ans, cette femme croyait en Dieu. Elle aimait le Christ, elle faisait le bien autour d'elle, et son cœur débordait d'amour. Ne me parlez pas de résilience, c'est aussi intelligent que de parler de coïncidence ou d'heureuse coïncidence. La présence à côté de Jean-Baptiste, au moment de la venue de Jésus, de ses deux disciples, dont André, le frère de Pierre, c'est pas une coïncidence. Jésus les connaissait et il les aimait comme il nous connaît et qu'il nous aime. De toute éternité et indépendamment de nos mérites. Dieu ne nous aime pas pour nos talents, mais pour que nous soyons ses enfants. Quand les enfants savent qu'ils sont vraiment aimés de leurs parents, ils développent leurs talents. Parfois, le déclic vient d'autres personnes, de l'extérieur. Parfois, il se fait plus tard. Mais encore une fois, le grand avantage dans l'Église, c'est que les responsabilités qui nous sont confiées sont indépendantes de nos qualités. Lorsqu'une personne à qui je demande de faire du catéchisme me répond « Oh ben non, je ne sais pas faire, je ne saurais pas faire », je lui demande « Est-ce que vous aimez Jésus ?» Vous aimez Jésus ? Ça suffit. Quand on vient de la société civile, et qu'on découvre l'Église de l'intérieur, on est fasciné par le niveau moyen d'incompétence. Les contre-emplois, les nominations aberrantes, et non, on ne s'y habitue jamais. Mais la seule chose pourtant qui nous est demandée, c'est de nous mettre au service de Dieu, au service des autres, au service de la communauté. Il y a une très ancienne expression qui dit que le prêtre agit in persona Christi capitis, in persona en personne Christi, du Christ capitis tête, le Christ tête. Tête de l'Église qui est son corps. Le prêtre est un membre de ce corps. Nous tous dans l'Église, appelés par le Seigneur, nous sommes les membres de son corps. Quelle que soit notre fonction, quelle que soit notre personnalité, nos qualités, nous sommes à son service du Christ et de son corps. Nous l'avons entendu dans la deuxième lecture. Vos corps sont les membres du Christ. Et c'est très beau ce que dit saint Paul. Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint. Demain commence la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. C'est d'une certaine façon la dernière volonté du Christ dans sa grande prière à son Père au chapitre 17 de l'Évangile de saint Jean. Qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et eux en moi. Cette unité entre nous, cette unité des chrétiens, le témoignage le plus fort et le plus missionnaire, elle passe évidemment par l'unité intérieure, à Dieu, en soi-même. Et c'est le plus difficile de concilier nos désirs, nos capacités et les besoins de ceux qui nous entourent. Nous avons tous des talents, des charismes, des qualités. Elles ne sont pas essentielles à notre identité. Elles ne sont pas fondamentalement constitutives de nous-mêmes, de l'âme que Dieu appelle à la vie divine. La seule chose que le Seigneur nous demande et que la foi donne de faire, nous disons c'est la charité, c'est de nous aimer les uns les autres comme il nous aime. Une expression que j'aime beaucoup, c'est une belle âme. Qu'est-ce que c'est une belle âme? Est-ce que c'est une âme qui est pleine de qualités? Non, une belle âme, c'est une âme qui veut toujours s'unir davantage au Seigneur et aux autres. Et là encore, saint Paul a une expression magnifique, il parle d'être unis dans l'esprit par le lien de la paix. Unis dans l'esprit par le lien de la paix. J'ai vu l'autre jour une vidéo d'un vieux légionnaire. Il n'était pas très vieux, mais il avait beaucoup baroudé, il était bardé de décorations. Et il était interrogé sur ses campagnes. Il refusait de répondre au nom de ses camarades tombés au combat. Et il disait, puisqu'eux ne peuvent plus les raconter, moi non plus. Et à un moment, on lui parlait des personnes qu'il avait tuées. Non, disait-il, ça aussi, c'est de l'individualisme. Voilà le terme exact qu'il employait avec l'accent du légionnaire. C'est de l'individualisme. Et il expliquait, c'est l'équipe qui combat, c'est l'équipe qui tue, sinon on devient fou. Et il faut retourner le propos pour le mettre à l'endroit. C'est l'Église qui aime, c'est l'Église qui baptise, c'est l'Église qui sauve, au nom du Christ, par le Christ. Et c'est le Christ qu'on crucifie chaque fois qu'on fait du mal au plus petit d'entre les siens. Pour le dire en une seule phrase, l'individualiste est un antéchrist.